Bonjour Éric Fotorino.
Bonjour Éric Delvaux.
Journaliste, essayiste, romancier, ancien directeur du Monde, directeur de nouvelles parutions. Aujourd'hui, vos journaux de papier sont des succès. Succès de la revue 1 qui fête ses 5 ans. Succès du magazine America qui raconte chaque trimestre l'Amérique de Donald Trump par des écrivains américains ou français. Et puis succès de votre dernier bébé, le numéro 2 va sortir le 13 juin. Zadig, ce sont toutes les Frances qui racontent la France. Et le prochain numéro donc sera consacré au thème de la nature. Avant de parler du contenu, on va parler un peu du contenant. Zadig, c'est un MOOC, contraction de magazine, le M de magazine et le hook de book. Premier numéro à 54 000 lecteurs, c'est un beau succès. Comment expliquez-vous cet intérêt donc pour vos magazines papier alors que tous les autres directeurs de rédaction s'inquiètent de cette migration des lecteurs vers Internet?
Moi, je vais d'abord toucher le bois du studio, le 1 pour dire est-ce que ça durera. Mais écoutez, c'est toujours difficile d'expliquer. Pourquoi il y a une telle attente que vous arrivez à capter?
Mais il y a deux choses, il y a un contexte et une recette.
Oui, alors le contexte, bien sûr, pour ce qui est de Zadig qui raconte la France, c'est un sujet sur lequel je me suis penché depuis longtemps avec mon équipe, hein, depuis plus de 2 ans. Et d'ailleurs, je rappelle que le numéro 1 du 1, dont vous avez parlé il y a 5 ans, s'appelait « La France fait-elle encore rêver ?». Donc c'est quelque chose qui nous a interrogés depuis longtemps, et en particulier au moment de la dernière présidentielle, quand on a vu tous ces codes politiques changer, mais en plus des codes sociaux, sociétaux, etc. Donc il y a un contexte, bien sûr, qui le fait. Après, je pense qu'aujourd'hui, on vit une forme de tyrannie de l'instant où notre attention est toujours volée, notre temps est toujours volé, je crois, par des machines qui vont plus vite que nous et qui nous font aller plus vite que ce qu'on voudrait. Et du coup, je crois que le support papier, lorsqu'il publie, évidemment, il imprime des choses intéressantes, intelligentes, j'espère, et sensibles, peut capter cette attention. Et je crois que beaucoup de lecteurs, tels qu'ils nous parlent, ils nous disent « Vous nous redonnez notre temps ». Ils se réapproprient leur temps à travers ces lectures longues qu'on propose dans nos journaux.
Donc Zadig, c'est le retour du temps long, c'est-à-dire le temps qu'il faut aussi aux journalistes ou aux écrivains pour être au cœur de leur sujet.
Oui, ça, je pense que aujourd'hui beaucoup de rédactions pressent leurs journalistes parce qu'il faut être sur le papier, il faut être sur le son, sur du multimédia, il faut faire plusieurs formats, plusieurs. Et je pense qu'on en oublie cette forme finalement l'emporte sur le fond, alors que le fond il est quand même essentiel. Je crois que les lecteurs sont déjà intelligents et donc ils ont envie qu'on leur donne de la qualité.
Mais Zadig, par exemple, c'est le prix d'un livre.
Enfin, je veux pas être... Oui, 19 voilà. euros, c'est le prix d'un livre.
C'est le prix d'un livre. Donc, il faut effectivement faire rêver aussi.
Oui, c'est-à-dire que c'est un livre tous les 3 mois. Mmh. Et effectivement, je crois que faire rêver, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on puisse chacun, comme lecteur, se projeter dans un imaginaire qui n'est pas celui de Netflix, qui n'est pas celui de tout ce qu'on nous amène sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, finalement, nous laissent entre nous. C'est une sorte d'entre-soi généralisé par les algorithmes californiens. Nous, lorsqu'on va parler de la vie d'un marin-pêcheur, lorsqu'on va parler d'une infirmière des Hauts-de-France, etc., on amène chacun, ou d'un berger, on amène chacun ailleurs. Et je pense que notre société aujourd'hui montre d'altérité, montre de manque de différent.
Quand vous dites que c'est un magazine pour raconter la France, toutes les Frances, mais cette France dont vous dites qu'elle est devenue illisible, en quoi la France est-elle devenue inaudible ou inintelligible?
Je pense qu'elle manque de nous. Il n'y a que des jeux superposés, des jeux J.E. j'entends. Et finalement, on fait des communautés, chacun a sa communauté sur Facebook, sur ses réseaux sociaux, et une communauté ne fait jamais une société. Et donc, à partir du moment où une société se fragmente à ce point, regardez le livre de Jérôme Fourquet sur l'archipel français, les archipels, eh bien, cette manière d'exploser fait qu'il n'y a plus d'unité. Et donc, je pense que cette manière de Zadig d'aborder la France dans ses plurales, c'est de se rassembler et d'une certaine manière de se ressembler aussi.
Mais on est connecté, hein, mais on est aussi déconnecté de la nature, et ça vous l'expliquez très bien, c'est-à-dire qu'en fait la nature c'est toute l'année. Or pour la majorité des gens, la nature c'est juste pendant les vacances ou alors c'est dans les mots. Plus que dans les faits.
C'est vrai que c'est un long malentendu entre les Français et la nature. Alors, comme toujours, dans nos approches, on fait appel à la fois à des géographes, des historiens, des sociologues, etc., pour nous raconter ça. Et ce que j'ai compris, moi, en lisant ce numéro de Zadig, qui en effet a son dossier, hein, c'est à chaque fois, il y a un dossier de 70 pages sur la nature cette fois, c'est de montrer que finalement, pour les Français, la nature se réduit à l'agriculture, à la ruralité, à quelque chose déjà de technique.
Et de moins en moins, parce qu'il y a de moins en moins de pays.
de moins en moins et de plus, qui sont plus industrialisés, d'où les polémiques évidemment justifiées sur le glyphosate, sur la chimie qui détruit la nature. Mais il y a aussi une dimension religieuse, c'est-à-dire que on a un texte très intéressant du sociologue Jean Viard qui nous dit que c'est Rousseau finalement qui amène le protestantisme, et le protestantisme ne représente pas Dieu par les cathédrales, les croix, l'or, etc., mais par la nature. Plus la nature est belle, plus la présence de Dieu serait tangible. Donc effectivement, il y a eu des bascules à la fois historiques, religieuses dans notre société, mais qui, à l'arrivée, font que on n'a pas cette nature américaine, vous savez, ces grands parcs hein, comme Yellowstone.
Les espaces infinis.
Qui est un
les
bout,
wilderness,
voilà,
wilderness.
Et je recommande d'ailleurs, quand il sera paru, hein, un texte de Sylvain Tesson magnifique qui explique ce que c'est que la nature et pourquoi on n'a pas ces espaces sauvages, mais des espaces très quadrillés. Lui, il ne se repère que sur les cartes à 1/25 millième.
Et donc aujourd'hui, il n'y a qu'un malentendu entre nous et la nature ?
C'est plus qu'un malentendu. C'est-à-dire qu'au départ, il y a effectivement cette idée que la nature doit être domestiquée, elle doit être apprivoisée, humanisée. C'est-à-dire que c'est l'humain qui prime sur la nature. Et aujourd'hui, on voit bien, depuis la COP21 par exemple, mais aussi encore là, ces jours-ci, il va y avoir des jeunes qui vont se mobiliser. Je crois que les générations nouvelles veulent faire sauter ces carcans qu'on a plaqués comme ça, artificiellement, si j'ose dire, sur la nature.
Alors, on le disait, hein, Sylvain Tesson, dans le prochain numéro de Zadig, qui sortira le 13 juin, évoque la France des potagers, la France des jardins de curés. Mais est-ce que ce n'est pas un peu passéiste?
Ben, écoutez, si on prend évidemment Sylvain Tesson, vous savez qu'après son grave accident il y a 3 ans, il avait écrit ce qu'il appelle ses chemins noirs. Il est parti du sud-est jusqu'au Finistère. Et en fait, il a essayé d'éviter les villes, même les grandes agglomérations. Il a essayé d'éviter les routes. Il est passé par les chemins. Et je pense pas, alors je vais vous dire non. Je crois que c'est tout le contraire. C'est que plus la mondialisation avance, plus chacun d'entre nous est dépersonnalisé. C'est-à-dire notre identité se fond dans un grand tellement grand qu'on n'existe plus. Et donc je crois que ce qui fera demain l'identité de la France, sans parler de ce qu'écrivait Brodel il y a déjà un demi-siècle, eh bien c'est justement tout ce qui caractérise nos terroirs, nos territoires, et les chemins en font partie.
Et dans je vous en prie.
Non, mais les historiens, puisque les historiens sont pas tellement intéressés à la nature,
non.
Et le gibier de l'historien, c'est la chair humaine.
C'est ce que dit
bien Marc Bloch.
Oui. Mais... oui, absolument. C'est-à-dire qu'effectivement, on a fait primer l'humain en oubliant que finalement l'humain ne peut se développer dans toutes ses facultés que lorsqu'il est dans un environnement qui ne soit pas hostile. Et au fur et à mesure, les révolutions industrielles, l'exode rural, ont fait qu'on a plus glorifié la machine et l'homme qui devient machine, d'une certaine manière. On a machiné l'homme et on lui a fait perdre en grande partie son essence naturelle.
Et pour reprendre d'ailleurs les derniers mots de votre édito, notre rapport à la nature ne raconte finalement rien de mieux que notre nature humaine.
Oui, c'est vrai. Et alors là-dessus, on publie une nouvelle de Philippe Claudel qui est glaçante, mais qui montre bien que la nature humaine peut faire encore plus peur que la nature tout court quand elle se met en colère.
Un mot aussi, vous le rappelez dans ce numéro à venir le 13 juin de Zadig sur la nature, que l'outre-mer français abrite 10% de la biodiversité mondiale. Hommage donc à l'outre-mer quand on évoque la nature en France.
Oui, bien sûr, parce que c'est vrai qu'on oublie qu'on a des frontières ultramarines très lointaines.
Hein, la plus grande frontière française, elle est entre le Brésil et l'Amazonie et la France et la Guyane.
Exactement. Ben, vous connaissez bien votre géographie et c'est pas si courant. On est très peu géographe en France. Et c'est vrai que cette géographie ultramarine, elle est très importante parce qu'elle est ce réservoir, voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, pourquoi je veux faire dans Zadig toutes les Frances qui racontent la France? Parce qu'il y a aussi cette France de l'outre-mer qui est très très importante.
Dernière chose sur la nature, finalement c'est un peu candide, hein, le cousin de Zadig quand il faut aller apprendre à cultiver son jardin. Oui. Mais aujourd'hui, Eric Fottorino, faites-vous toujours confiance à cette nature humaine ou est-ce qu'elle est vraiment un danger comme vous le soulignez dans Zadig?
C'est-à-dire qu'elle est un danger quand elle décide d'être dangereuse. Je pense qu'il faut toujours faire confiance dans l'humain parce que c'est lui qui a toujours trouvé des solutions jusqu'à présent dans l'histoire. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai appelé ce magazine Zadig.
Sauf que Zadig chez Voltaire, il a pris des coups. Il a pris aucun coup pour l'instant.
Il a pris des coups, mais c'est le personnage le plus résilient de la philosophie, Zadig. Mmh. C'est-à-dire, il prend des coups, il est défiguré, il est chassé de chez lui, mais il tire chaque leçon de ses échecs et c'est comme ça qu'il va vers le bonheur et qu'il le trouve.
À propos de la nature humaine, Eric Fotorino, votre dada, c'est le vélo, ou plus exactement
C'est une découverte, ça.
Combien de livres avez-vous écrit sur le Tour de France?
45.
Oh non, non. Non, je crois que j'ai dû écrire 6 livres sur le vélo, dont un qui était vraiment marqué par un Tour de France que j'avais fait avec des jeunes en 2013.
Le Tour de France qui débutera à partir du 6 juillet. Votre livre évoque votre panthéon des maillots jaunes. D'où vient cette passion pour le vélo, mais pour le Tour de France en particulier?
Alors le vélo, je pense que ça a été inconsciemment un rêve d'échapper aux adultes, d'échapper aux parents, d'échapper aux soucis.
C'est un des chapitres de votre livre.
Aux mauvaises notes à l'école ou des choses comme ça. Donc s'échapper, puis une camaraderie aussi. Parce qu'on est seul sur son vélo, mais quand on veut faire de la route, il faut avoir des copains pour s'abriter du vent. Donc voilà. Et puis le Tour de France, parce que c'est une forme d'héroïsme qui m'a touché quand j'étais gamin.
Dans Zadig aussi, les questions de vélo, entre les kilomètres 66 et 98, la dixième étape.
J'ai fait appel à un reporter que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jean-Louis Letouzet, qui a suivi 20 Tours de France pour Libération. Et là, il raconte, non pas le Tour de France, mais la France du Tour. Et ça, c'est passionnant, tellement c'est humain.
Qu'avez-vous gardé de vos jeunes années d'efforts sur la selle et pour durcir vos mollets?
Ça m'a pas seulement durci les mollets, ça m'a forgé le caractère. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une côte, il y a personne pour vous pousser, vous transpirez, vous sentez votre cœur comme s'il allait sortir de la poitrine. Si vous donnez le coup de pédale qu'il faut encore en plus et vous allez basculer dans la descente, c'est une école de volonté et de courage.
Mais à Paris, vous êtes venu comment ce matin? Vous êtes venu à vélo.
Non, figurez-vous, mon petit vélo est crevé.
Et donc, petit vélo absolument extraordinaire que vous pliez.
Oui, qui se plie. Quand on fait des journaux qui se plient, il faut aussi un vélo qui se plie, voyez, Patricia.
Le main se plie et le vélo se plie. Vos héros dans Maillot Jaune qui sort chez... Mes maillots jaunes, qui sort chez Stock. Vos héros s'appellent Louis Ocagna, En Martyr, Sous l'Orage, Laurent Fignon, de votre génération, presque un jumeau. Oui. Il y a eu Anquetil un peu plus tôt et puis il y a le blaireau Bernard Hinault. J'ai l'impression que vous avez un faible particulier pour Bernard Hinault.
J'aime Hinault parce que c'est ce qu'on appelle dans le vélo un guerrier. C'est-à-dire c'est quelqu'un, il n'a pas besoin d'oreillettes dans les oreilles pour qu'on lui dise faut attaquer. Il a l'instinct, il a la course dans le sang, et puis c'est quelqu'un.
Vous en parlez au présent, c'est marrant.
Oui, c'est quelqu'un que j'ai la chance de connaître. Il m'a beaucoup encouragé quand j'ai fait le tour avec les jeunes. Il m'a donné plein de conseils. Enfin, c'est quelqu'un de généreux, Hinault. C'était sur un vélo généreux parce que l'effort, même s'il avait le maillot jaune sur les épaules, il attaquait encore, comme Merckx. Alors que vous avez des coureurs un peu à l'économie, lorsqu'ils sont en tête, ils se cassent pas trop la tête. Lui, c'est vraiment du courage, c'est vraiment la tête dure du Breton, et en même temps, cette espèce de fougue et puis de panache.
Et puis il y avait Eddy Merckx qui gagnait tout. Tout est dit, alors tout est dit, il faut le comprendre, c'est en deux mots, tout. Et Eddy comme Eddy Merckx, c'était le mot d'Antoine Blondin. Ouais. On ne peut pas aimer le Tour de France sans aimer Antoine Blondin, j'imagine, Eric Fotorino.
Non, parce que Blondin qui disait la littérature sont des litres et des ratures. Donc il y avait beaucoup de litres chez Blondin, c'était pas des litres d'eau.
Et beaucoup de verres de contact aussi.
Des verres de contact. Et oui, parce que Blondin, vous savez, le cyclisme, c'est un sport qui a... fait naître beaucoup d'œuvres littéraires au sens et journalistiques parce que il n'y avait pas d'image au départ. Donc c'était un récit. Le récit était central parce que les coureurs partaient d'un endroit et ils arrivaient dans un autre et 200 kilomètres, personne ne les voyait. Donc les grands récits de Pierre Chany puis après les chroniques de Blondin, c'était pour dire que le tour écrit était encore plus grand que le tour couru.
Mes maillots jaunes, Eric Fotorino chez Stock. Je vais lire une phrase de votre livre, comme j'aimerais voir surgir un nouveau semeur d'étincelles après tant d'années de diète et de podium où l'on ne parle qu'anglais. C'est dans votre dernier chapitre. Vous ne trouvez personne ne trouve grâce à vos yeux aujourd'hui parmi les cyclistes français?
C'est pas qu'ils trouvent pas grâce à mes yeux. J'aime beaucoup Thibaut Pinot ou Romain Bardet. Simplement, je les vois pas encore sur la première marche du podium. Et c'est ça qui me chagrine un peu. Non pas qu'ils manquent de talent, mais pour le moment, ils sont pas les plus forts. Et donc, j'aimerais bien qu'un jour, ils aillent le chercher, ce maillot, et qu'ils le gardent jusqu'à Paris.
Mais est-ce que c'est pas aussi une épreuve de vérité, mais un peu comme peut la vivre un marin, par exemple, qui parle. Et là, j'en reviens à Zadig, il y a un texte, il y a des très belles pages de Michel Serres, qui raconte son ancrage dans le fleuve, en l'occurrence la Garonne, et qui remet, grâce à ça, il remet en perspective, finalement, l'homme qui pense être le maître du monde et qui ne l'est point.
Vous parlez d'un entretien, moi, qui m'a beaucoup bouleversé. On s'est vu plusieurs fois avec Michel Serres ces dernières semaines. Et la première fois, je lui ai dit « Mais d'où venez-vous, Michel Serres ?» Il m'a dit « Savez-vous, cher ami, parce qu'il vous dit toujours « cher ami », savez-vous que j'étais un poisson ?» Voilà, parce que effectivement, quand il était enfant, avant d'aller à l'école avec son frère, il plongeait dans la Garonne en slip. Il faisait le, ils allaient au bout de la rive, ils revenaient et après ils s'habillaient, ils allaient à l'école. Donc effectivement, cet homme qui a été marinier, puis après marin du large, il raconte comment il a rouvert le canal de Suez avec un équipage. Ben c'est quelqu'un qui vous raconte le monde, effectivement, qui prend la mesure entre l'homme tout petit et le grand monde. Et lui, la France n'existe pas si elle ne se tourne pas vers le monde, d'où tous ces récits, ce qu'il nous raconte sur le Mont Cervin quand il est monté en haut des grands sommets pour voir et l'humilité aussi de ce qu'est la nature humaine.
Éric Fotorino, vos publications sont donc des succès. On va rappeler un Zadig, le numéro 2 va sortir le 13 juin prochain. Le premier a rencontré 54 000 lecteurs. Il y a aussi le 1 qui va fêter ses 5 ans. Vous allez faire une fête pour les 5 ans du 1?
Alors on a fait déjà
une petite fête des
5 ans du 1 et du lancement de Zadig. Les deux ont coïncidé.
D'accord. Et puis il y a aussi votre magazine America, 4 parutions par an. Il a été lancé pour décrypter les 4 années du mandat de Donald Trump à travers la plume des écrivain américain et français, avec évidemment Bunuel à la manœuvre.
Oui, François Bunuel grand connaisseur de la littérature américaine et évidemment sans lequel ce America ne serait pas ce qu'il est.
Il y aura toujours besoin de ce magazine une fois passé le premier mandat de Donald Trump, ou est-ce que vous arriverez à vous renouveler? Parce que finalement l'objectif, le pari, c'était de dire on fait les 4 ans et après on s'en va, on reste.
C'est ce qu'on a dit quand on l'a lancé, on a dit il s'arrêtera quand le mandat de Trump s'arrêtera. Maintenant c'est vrai que quand on voit qu'on a chaque trimestre 40 000 personnes qui lisent America, on se dit on va peut-être pas les laisser sur le bas-côté une fois qu'on aura fini les 4 ans. C'est une question qui reste ouverte, peut-être qu'on créera autre chose. Il ne faut pas non plus être le rentier de ses propres magazines. Il faut à un moment donné peut-être réinventer d'autres choses. Donc on se laisse ouvert.
Éric Fotorino, multicasquette. Je rappelle aussi votre dernier livre, Mes maillots jaunes. Tiens, avant de terminer, un mot sur les derniers propos de Lance Armstrong. Déchu de tous ses titres du Tour de France pour raison de dopage, il vient de dire il y a 3 jours qu'il ne regrettait rien et que s'il recommençait, il se redoperait. Qu'en pensez-vous ?
Vous savez, ça, c'est la vérité d'un homme, c'est la sienne. Moi, je pense que on est allé trop loin dans tous les sens. Lui est allé beaucoup trop loin, évidemment, le fait de ce dopage organisé, industrialisé, est terrible. Et en même temps, le fait qu'il soit rayé des tablettes, il n'existe plus, me paraît aussi, c'est comme ça, ces généraux autrefois en Union soviétique, quand ils n'étaient plus en cours, on les rayait sur les photos, on les faisait disparaître. Moi, je pense qu'il a existé dans l'histoire du vélo, un Lance Armstrong, qu'on le veuille ou non. Et effectivement, je crois que le dopage, lui, l'a poussé au son paroxysme, mais il faut dire aussi que c'était un champion. Donc, c'est là que c'est beaucoup plus compliqué qu'on pourrait le croire de prime abord.
Merci beaucoup d'être venu ce matin à France Inter, Éric Fotorino. Zadig, numéro 2, le 13 juin. Et puis, votre dernière contribution littéraire autour de France, Mes maillots jaunes, ça paraît chez Stock. Merci et bonne journée. Merci.